Gréé devant l'énigme par Alfred Gragnon. Chapitre 1er. Drôle de prise. Monsieur Griveaux, veuf quinquagénaire, rond comme une bille à retraiter, aimait mieux se livrer aux hygiéniques plaisirs de la pêche que de s'abandonner à ceux plus funestes de la débauche ou de l'ivrognerie. Comme il habitait bien en cour, et qu'il professait que partout où il y a de l'eau, il doit y avoir des poissons, il avait adopté, pour y exercer son sport favori et sa patience, un coin de Seine proche de chez lui et agréablement situé à l'ombre du viaduc du Point du Jour. Malheureusement pour le pêcheur, il semblait que tous les poissons du fleuve, aussi petits et étourdis qu'ils fussent, eussent à jamais déserté le coin choisi. Aussi peut-on juger de l'émotion triomphante du brave homme lorsque, certains matins de la fin août, il vit tout à coup son bouchon s'enfoncer profondément. « Une grosse pièce, » pensa-t-il. « Ça, c'est une touche, » murmura un des trois chômeurs professionnels qui suivaient, depuis quelques instants, le spectacle monotone, mais gratuit d'un pêcheur qui ne prend rien. Monsieur Griveaux s'est élevé, et suivant le fil de l'eau, il essayait, par de souples et lents mouvements de sa ligne, tantôt à gauche, tantôt à droite, de noyer le poisson, ainsi qu'il avait vu faire dans sa jeunesse à des pêcheurs de carpe. Un gamin qui le précédait sur la berge, s'efforçant d'apercevoir le premier la prise au fond de l'eau, poussa tout à coup un cri immédiatement suivi d'un mot qui, de l'histoire napoléonienne, est passé dans le commun. « C'est un macabée, » bégaya-t-il sans respect, mais non sans émoi. Ce fut un affolement général. M. Griveaux, qui connaissait l'extrême sensibilité de son cœur, lâcha sa ligne, s'immobilisa et détourna la tête. Cependant, grâce à diverses bonnes volontés populaires et à la présence miraculeuse d'une gaffe, il fut bientôt possible de retirer de l'eau un corps de femme. À sa vue, les curieux qui semblaient, comme par enchantement, être sortis de terre, s'exclamèrent d'horreur. « Je vois ce que c'est, » dit un esprit fort. « C'est une femme qui a perdu la tête. » La plaisanterie fut accueillie par des regards désapprobateurs. Sur la berge, un jeune gardien de la paix ne pouvait détacher ses regards du corps atrocement décapité. « Sûrement un crime, » assura-t-il à plusieurs reprises. Puis, il se décida à confier la garde des tristes dépouilles aux plus âgés des sauveteurs et s'en fut, légèrement vacillant, téléphoné au commissariat. Chapitre 2e. Que fait la police ? L'enquête sur l'affaire du Point du Jour avait été confiée à M. Bordier, commissaire aux délégations judiciaires, mais ce fonctionnaire ayant, dès les premières constatations, classé le crime dans la peu reluisante série de ceux que l'on dénomme crapuleux, et étant, d'autre part, accablé de responsabilité dans une retentissante affaire de trafic d'armes, s'était momentanément déchargé des recherches sur son subordonné, l'inspecteur principal Poussin. C'est ainsi que, 48 heures après la sinistre découverte d'Auteuil, cet inspecteur était amené à faire son rapport sur les résultats de ses premières investigations. Le rapport avait été d'autant plus succinct qu'en deux jours, Poussin n'avait absolument découvert qu'une seule chose qui lui parut établie, c'est que ni lui-même, ni a fortiori nul autre, ne découvrirait jamais rien en ce mystère. Après les clauses de style obligatoire, il avait abordé le fond même de son enquête. La victime n'ayant plus de tête, il m'a été absolument impossible de prendre et de diffuser sa photographie. Ne peut-on pas, en conséquence, espérer que quelqu'un la reconnaîtra. Toutefois, j'ai constaté qu'aucune disparition correspondante au signalement tronqué de la femme n'a été enregistrée, depuis assez longtemps au service des recherches. D'autre part, l'examen médico-légal conclut à ce que nous nous trouvons en présence d'une femme d'environ 20 à 25 ans, mesurant probablement 1m60, dont le corps ne présente aucun signe ou cicatrice particulier et qui a séjourné dans l'eau de 12 à 24 heures. Ce manque de précision, notamment sur la durée de l'immersion, est éminemment regrettable. Un de nos spécialistes, en calculant la vitesse moyenne du courant, le poids physiologiquement variable de la noyée, l'éventualité d'obstacles rencontrés, aurait pu situer approximativement le point de chute. Mais le médecin légiste assure qu'il ne peut dire mieux, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une asphyxie par submersion. Nous en sommes donc réduits à imaginer que la femme a été lancée dans le fleuve, quelque part entre le pont de Charenton et celui de Grenelle. Des investigations sur une aussi longue distance sont pratiquement impossibles. Enfin, ni le linge extrêmement simple, ni la robe visiblement de confection ne portaient d'initiales ni de marque. Dans ces conditions, il est indiscutable, et j'estime qu'on ne peut désormais attendre quelque éclaircissement dans cette affaire que d'un hasard ou d'une dénonciation. Ouais, avait grogné le commissaire Bordier. Puis, un silence gênant s'était établi et c'était en vain que Poussin avait attendu l'autorisation de disposer. Poussin, malgré son respect inné de la hiérarchie, ne cessait de se demander en ce moment si, décidément, le destin qui a donné aux subordonnés le goût de l'obéissance n'a pas donné aussi au chef celui de l'iniquité. « Est-ce que vous avez vu ça ?»« Oui, » laissa enfin tomber monsieur le commissaire Bordier. De la pointe du menton, il montrait quelques journaux du matin, dépliés en un coin de son bureau. S'étant avancé, Poussin aperçut des titres énormes. Le mystère du viaduc, la femme sans tête, l'énigme sanglante, que fait la police ? Que fait la police ? Cette question publiquement étalée par quelques petits reporters en mal de copie, voilà donc certainement d'où venaient les nuages sombres que Poussin sentait d'instinct, depuis la fin de son rapport, s'amonceler sur sa tête ronde. Il souleva légèrement ses grasses épaules et risqua un sourire de méprisante ironie souligné d'un faible hoquet. Il devait regretter sur le champ cette tentative d'hilarité, pourtant convenablement contenue. Elle sembla avoir ouvert les écluses à un torrent de sarcasme. Une cascade d'adjectifs tombait, parmi lesquels le malheureux inspecteur, dos courbé et jambes vacillantes, en surprit certains à la fois désagréables à l'oreille et contraires à l'opinion qu'il avait de lui-même. Mais les adjectifs s'envolent, et les chefs s'en vont déjeuner, et comme eût dit Shakespeare, sans que l'inspecteur s'en doutât. Tout cela eût été beaucoup de bruit pour rien, si la conclusion de la diatribe n'était venue en flèche du part profondément ulcéré le cœur de Poussin. « Et vous allez immédiatement aller trouver Gray ?» avait presque hurlé M. Bordier. « Vous lui direz qu'il prenne tout de suite cette affaire en main, avec ou sans vous, ça n'a pas d'importance. Allez, et que ça ne traîne pas !» Chapitre 3e. Un jeune débutant. Seul, maintenant, dans les longs et larges couloirs déserts, Poussin, en quête de Gray, marmonnait. Lui jetterait-on toujours ce Gray dans les jambes, ce jeune homme, ce gamin, ce petit monsieur sans flair ni expérience, et dont les invraisemblables succès n'étaient que les effets d'une chance insolente. Ça, un inspecteur de la police judiciaire, ce gamin, ce seigneur qui avait les moyens de s'offrir une auto personnelle, de fumer des cigarettes à 10 sous pièce, ce prétentieux qui se servait de subjonctifs et de mots anglais, allons donc. Et c'était ça que les chefs et les journaux comparaient à Sherlock Holmes. Il fallait vraiment que personne au monde n'eût jamais lu les aventures de ce personnage. L'inspecteur principal eut un sourire de méprisant écœurement. Évidemment, ce pauvre Gray essayait de copier l'autre, c'était visible. Ainsi, comme Sherlock Holmes, il tombait dans de longues réflexions, des silences emplis dont on ne savait quelle pensée profonde et qui n'en finissait plus. Et alors, lui aussi, Poussin réfléchissait, parbleu, mais lui, il réfléchissait vite, très vite, presque instantanément. Cette merveilleuse rapidité dans la réflexion n'était-ce point la preuve d'une intelligence plus vive ? La réponse qu'il donna à sa propre question convainquit aisément Poussin de son évidente supériorité, aussi bien sur le héros de Conan Doyle que sur son collègue détesté. D'ailleurs, il était indiscutable que Gray allait se casser le nez dans l'affaire du point du jour, où un vieux renard n'avait rien trouvé que pouvait découvrir ce petit putois néophyte. L'insuccès était certain. Pour Gray, ce serait la retraite de Moscou, sinon Waterloo, indiscutablement un coup mortel porté à sa réputation usurpée. Une heure après, Poussin ayant déniché Gray à l'autre bout d'un fil téléphonique, lui avait transmis l'ordre reçu et rendez-vous avait été aussitôt pris devant l'Institut médico-légal. Dès qu'ils se trouvaient réunis, l'inspecteur principal prit pour mettre son collègue au courant des grandes lignes de l'affaire, un ton d'une douceur et d'une amabilité qu'aurait envié l'hypocrite Néron en présence du pâle Britannicus. Il se garda bien de le prévenir des difficultés à son avis insurmontables qu'il attendait, encore moins de lui révéler sa propre disgrâce. Ils pénétrèrent ensemble dans cette salle d'attente de la tombe que la société offre aux victimes des hommes et aux vaincus de la vie. Gray s'attarda assez longuement à l'examen de la victime et des vêtements qu'elle portait quand on l'avait retirée de l'eau vaseuse. Durant cet examen, Poussin avait sournoisement observé son collègue. Malheureusement, le visage de celui-ci était de ceux sur lesquels on ne peut lire aisément. Aussi, dès la sortie, l'inspecteur principal, avide de connaître ce que Gray avait bien pu déduire de ses premières observations, voulut-il, sans attendre, le confesser. « Je suis d'avis, dit-il de l'air le plus détaché, que la victime appartenait au milieu le plus bas. « Croyez-vous ? Murmura Gray. « Certainement, continua Poussin. « Vous n'avez peut-être pas remarqué, vous, le vernis qu'elle se mettait aux ongles aussi bien à ceux des mains qu'à ceux des pieds ? Ce vernis est d'un rouge éclatant et, on peut le dire, du plus mauvais goût. Il y a gros à parier que son visage devait être le même, exagérément maquillé. D'autre part, le linge et la robe sont bien simples. Une petite chemise sans dentelle ni broderie, une robe noire de 4 sous sans garniture, elle ne portait pas de bas, aucun bijou. » Ceci dit, l'inspecteur principal jeta un coup d'œil furtif sur son compagnon. Il pensait bien l'avoir assis sous le poids de déductions qu'il jugeait pour le moins aussi réfutables que bien exprimées, mais il trouva plus habile de masquer sous un air de modestie l'orgueilleuse satisfaction qu'il avait de lui-même et qui ne demandait cependant qu'à déborder. « Évidemment, consentit Gray doucement, mais... »« Mais quoi ?» s'inquiétait déjà non sans raison Poussin. « Mais le vernis rouge dont se servait cette femme, pour ne point vous plaire, n'en est pas moins fort à la mode et, je crois, d'un prix élevé. Le linge est simple, en effet, mais d'un goût sûr, cette fois, et d'un crêpe de Chine épais et certainement onéreux. De même, la robe, pour être sans garniture, est d'un tissu nouveau et d'une ligne qu'on ne trouve que chez les grands couturiers. Enfin, c'est sans doute au bord de la mer, sur une plage élégante, dont elle revenait récemment, que la victime a pris l'habitude momentanée de ne pas mettre de bas. « Comment savez-vous qu'elle revenait de la mer ? » s'exclama Poussin, laissant malgré lui percer sa stupéfaction. Ce fut au tour de Gray de montrer un étonnement quelque peu ironique. « Oh, Poussin, n'avez-vous pas remarqué des différences de ton sur la peau ? Elle dessine nettement les contours du maillot et témoigne de bains de soleil récents. » Poussin éprouva sur l'instant quelque chose comme la sensation que ressent un joueur de dames ou d'échecs qui se considère comme un champion imbattable et à qui son adversaire, dès le début de la partie, vient d'infliger le coup mazette ou celui du berger. Aussi chercha-t-il à se rattraper bien vite. Riche ou pauvre, femme élégante ou non, ça n'a d'ailleurs aucune importance. Ce qu'il aurait fallu savoir, tout au moins approximativement, c'est l'endroit où le corps a été jeté dans la Seine. Mais le médecin légiste prétend que la durée de l'immersion peut aussi bien avoir été de 12 heures que de 24 heures. Allez donc faire des calculs de probabilité sur des données aussi peu précises. Il en a fait du chemin, le courant, en une demi-journée. Oui, oui, certainement, opina Gray, mais... Mais quoi encore ? Questionna brutalement cette fois Poussin, s'exaspérant. Mais le corps a été repêché vers midi, n'est-ce pas ? Oui, et après ? Oh, je pense que si ce corps avait été précipité à la Seine 24 heures auparavant, temps maximum déterminé par ce médecin légiste, cet acte sinistre eût été commis en plein jour. Je révoque en doute que ce soit le moment qu'ait choisi le meurtrier pour s'aventurer sur une berge de la Seine, chargé d'un corps sans tête. La conservation de la sienne propre doit lui tenir trop à cœur pour qu'il ait commis une aussi folle imprudence. Il est plus que probable que l'assassin a dû attendre la nuit complète, l'heure où les quais sont déserts, du moins, en certains endroits, c'est-à-dire vers 22 heures à cette époque de l'année. Cela réduit énormément les conjectures. Quel chemin a pu parcourir ce malheureux corps entre 12 heures au moins et 14 heures au plus ? Cela ne doit guère dépasser 1500 mètres et certaines considérations me donnent à penser que cela ne les atteint même pas. À ce moment, Gray héla un taxi qui passait. « Où allez-vous ? » s'efforça de bégayer Poussin. « Trouvez le meurtrier, j'espère. » La réponse, cette fois, devait à ce point abasourdir l'inspecteur principal qu'il se trouva assis dans la voiture à côté de son collègue sans même se rendre compte qu'il y montait. Il était dit que toutes les espérances de Poussin périraient dès leur naissance. Gray reprenait aussitôt lentement et comme s'adressant à lui-même plus qu'à son compagnon de route. « Le meurtrier doit habiter un rez-de-chaussée, dont la cuisine ou la salle de bain donne sur les quais. Il est sans doute célibataire, jeune, élégant, probablement étranger et de caractère peu sociable. Il rentrait chez lui après 10 heures du soir le jour du crime et y restait la plus grande partie du lendemain. « Qu'est-ce que vous racontez ? » Il ne faudrait tout de même pas essayer de me bluffer, vous savez, ni de vous faire passer aux yeux des êtres sensés pour une voyante extra-lucide. » Gray marqua quelques surprises de cette sortie assez violente, puis, haussant légèrement les épaules, il murmura en souriant modestement. « C'est vrai, ce ne sont que des conjectures déductives. La moindre omission ou la plus légère erreur dans les prémices ou le développement peuvent entacher de fausser leurs conclusions. Cependant, reprit-il lentement, si je pense que le meurtrier habite un rez-de-chaussée, c'est toujours pour les mêmes raisons. Quand on doit se débarrasser d'un corps décapité en le jetant dans l'eau, on doit évidemment aussi désirer laisser le moins de traces possible et courir un minimum de risque de rencontrer un fâcheux. C'est peut-être même en l'espèce, comme dans beaucoup de cas, la considération dûment établie de la possibilité de cacher le crime commis qui a fait naître dans le cerveau criminel la modalité d'exécution. Je pose en principe que l'assassin, pour gagner les berges du fleuve, devait pouvoir sortir par une fenêtre sans avoir à descendre un escalier, traverser un vestibule, risquer les regards d'une concierge. Il n'y a qu'un rez-de-chaussée donnant sur les quais qui pouvait lui offrir ces tristes avantages. « Oui, oui, » consentit Poussin à contre-cœur. « Mais pourquoi cette histoire de salle de bain ou de cuisine donnant sur les quais ?»« C'est que je n'imagine pas quelqu'un osant se livrer à une décapitation dans une pièce comprenant des tapis, des planchers, des étoffes, des meubles. Seule une salle de bain ou une cuisine au sol et aux parois carrelées offre des possibilités de nettoyage à grande eau. »« Oui, oui, » murmura Poussin pensif. « Si j'ai avancé, » poursuivait Gray implacablement, « que le meurtrier est célibataire, ou du moins vit seul chez lui, c'est que je pense que le rez-de-chaussée, théâtre du crime, est le domicile de celui qui l'a commis et non celui de la victime. Si c'était le contraire, ou si meurtrier et victime vivaient ensemble, la disparition brutale de la femme n'aurait peut-être pas passé inaperçue, et c'est encore un risque que l'assassin n'aurait pas osé courir. Si j'ajoutais qu'il était jeune, c'est qu'à défaut d'expérience anatomique, un homme âgé n'aurait pas eu la force qu'a nécessité l'acte postérieur au crime. Si je le suppose élégant, c'est que, contrairement à votre opinion, je suis convaincu que la victime appartenait à un genre de femme dont l'élégance et la mode sont les buts, vains mais principaux de l'existence. Or, en principe, dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es. En outre, si nous situons le point de chute du corps dans les 1200 mètres en amont du viaduc et étant dit que ce point de chute est proche du probable rez-de-chaussée, notre homme doit habiter un de ces immeubles modernes et assez luxueux dont la façade principale donne sur l'avenue de Versailles et l'autre sur la Seine. Et j'ai encore dit, je crois, qu'il devait être de caractère peu sociable et étranger. C'est que j'imagine qu'un être capable de semblables atrocités doit, sous des aspects hypocrites de mondanité, cacher un goût farouche de solitude. D'autre part, tant de barbarie chez un homme de classe sociale moyenne, sinon élevée, n'est pas dans le caractère français. Et les statistiques n'enregistrent pas meurtre de ce genre en France pour 4 ou 5 crimes semblables dans certains pays étrangers. De plus en plus accablé par une succession d'explications qui lui paraissaient probantes, qui étaient pour lui comme de violents coups de boutoir, Poussin caressa le dernier espoir que Gray, qui s'était tu, ne pouvait défendre les dernières suppositions qu'il avait énoncées, à savoir que le meurtrier était rentré chez lui après 10 heures du soir, le jour du crime, et qu'il était resté seul une grande partie du lendemain. Mais déjà, Gray reprenait. « Oui, le meurtrier a dû rentrer chez lui après 10 heures du soir, car il devait être accompagné de sa victime, et il est certain qu'il a dû préférer qu'elle ne fût pas aperçue avec lui, notamment par la concierge. Or, 10 heures est l'heure virtuelle du couchage dans les loges, comme 9h15 est celle du couvre-feu dans les casernes. Il semble aussi assuré que le meurtrier a dû rester seul le lendemain, car vous avez bien pensé qu'il a dû prendre tout le temps nécessaire à soigneusement effacer, par l'eau et par le feu, les traces de son crime. » À ce moment, la voiture s'arrêta. On se trouvait au coin de l'avenue de Versailles et du pont Mirabeau. Les inspecteurs descendirent, Gray régla le prix marqué, et tous deux gagnèrent sans hâte la berge de la Seine. Chapitre 4e. Curiosité suspecte. Après avoir jeté un coup d'œil sur l'ensemble des immeubles bordant la rive gauche du fleuve, en aval comme en amont, Gray, semblant avoir pris un parti, s'engagea, suivi de Poussin, le long du quai. Il avait pris l'allure d'un promeneur s'intéressant au mouvement du fleuve. Cependant, Poussin, qui n'était pas sans observer son collègue avec une certaine inquiétude, remarqua qu'à plusieurs reprises, le regard inquisiteur de Gray s'était posé sur les immeubles riverains. Tout à coup, Gray, qui marchait légèrement en avant, s'arrêta et poussa une exclamation amusée. De la main, il montrait à son collègue un point de la rive opposée. « Regardez donc, cher ami. » Poussin écarquilla les yeux et essaya de deviner ce que Gray lui montrait de l'autre côté de la Seine. Mais il ne remarqua rien d'anormal, d'extraordinaire encore moins, rien qui ait pu exciter la gaieté inattendue de Gray. « Qu'est-ce qu'il y a ? » questionna-t-il Bougon. Tous deux avaient maintenant le visage tourné vers le fleuve, et des immeubles proches, on ne pouvait apercevoir que leur dos. Gray en profita pour murmurer rapidement à son collègue. « Derrière nous, à la fenêtre d'un rez-de-chaussée, quelqu'un nous observe. « Surtout ne vous retournez pas !» Le visage se devine à peine. « Mais j'ai très bien vu la main écarter un rideau. »« Maintenant, faites semblant d'apercevoir ce que je suis censé vous montrer sur l'autre rive et riez de bon cœur. Puis prenez-moi par le bras et ayez l'air de me raconter quelque histoire amusante. Mais je vous en supplie, ne jetez pas le moindre regard sur la maison. » Poussin exécuta tant bien que mal les indications reçues. Faisant mine de causer assez gaiement ensemble, les deux policiers arrivèrent à la hauteur d'une courte rue transversale qui rejoignait l'avenue de Versailles. Avant de traverser la chaussée du quai et de s'engager dans la traverse, Gray s'arrêta et offrit une cigarette à Poussin. Pour ce faire, il avait sorti un porte-cigarette en métal finement poli, qu'il avait, avant de l'ouvrir, porté inopinément et sans raison à hauteur de son visage, puis agité dans un petit geste gai de feinte menace à l'égard de Poussin ahuri. Lorsqu'ils eurent tourné le coin, abandonné le quai, Gray s'arrêta de nouveau. Il dit d'une voix dure cette fois, « On a continué de nous observer. Comment le savez-vous ? Mon porte-cigarette est un excellent rétroviseur. » Il ajouta immédiatement, « Veuillez rester ici. Surveillez le quai sans vous faire voir, tandis que moi je gagnerai l'immeuble suspect par l'avenue de Versailles, où doit se trouver son entrée. » Poussin commençait à ouvrir la bouche pour suggérer une façon d'opérer différente et dans laquelle Gray eût pris sa place, et lui, la place de Gray. Mais avant qu'il eût émis une syllabe, son collègue avait déjà disparu dans l'avenue de Versailles. L'inspecteur principal, réduit au rôle de comparse, supplia tous les saints du paradis que le meurtrier, si c'était lui, eût la bienheureuse idée de s'enfuir par une fenêtre donnant sur les quais. Ainsi, ce serait lui, Poussin, qui l'arrêterait. Chapitre 5e. Appartement à louer. Tandis que Poussin commençait sa surveillance, Gray avait atteint dans l'avenue de Versailles la maison qu'il cherchait. Un écriteau annonçait un appartement à louer. Cet heureux hasard allait lui faciliter une entrée en conversation avec la concierge. Celle-ci était une petite femme d'une trentaine d'années, envahie de mauvaise graisse, grise de teint mais au regard assez vif et au visage avenant. Rez-de-chaussée de pièces, salle de bain, cuisine, tout confort, 8005 charges comprises, eau chaude au compteur, avait-elle répondu avec volubilité à la question de Gray. Libre ? Demanda l'inspecteur. Pour octobre, mais si monsieur veut visiter. S'il y a quelqu'un, je ne voudrais pas déranger. Oh, ça ne fait rien. Le locataire ne peut pas vous empêcher de visiter. Ah, c'est une locataire ? Oui, Madame Stourman. Et il n'y a qu'un rez-de-chaussée dans la maison ? Oh non, monsieur. Il y en a deux, absolument pareil d'ailleurs, bien qu'à l'envers, pour ainsi dire. Monsieur comprend ? Oui, et l'autre est occupé ? C'est-à-dire qu'il est loué. Le locataire est parti mardi soir en voyage, mais il reviendra en octobre. Ah, il est parti en voyage mardi soir. Oui, oh, il n'est resté que 3 jours à Paris. Il revenait de Biarritz. Gray eut l'impression qu'il devait avoir l'air absolument idiot. Il avait été attiré directement vers cette maison parce qu'il avait surpris une curiosité bizarrement en éveil, et il apparaissait dès l'abord que c'était le locataire absent de l'autre rez-de-chaussée qui correspondait au meurtrier qu'il cherchait. Les caprices du destin sont vraiment imprévisibles. Il prit un air timide pour dire « Ça m'ennuie de déranger cette dame, et puisque l'autre rez-de-chaussée est absolument semblable et présentement inoccupé, je préférerais, si c'est possible, et si vous le voulez bien, jeter un coup d'œil sur celui-ci. » En même temps, une pièce de 5 francs passait sans difficulté de la main de Gray dans celle de la concierge. « Oh, mais certainement, monsieur. Monsieur Arizzi me donne toujours les clés. Quand il est là, je fais son ménage, et quand il n'est pas là, j'aère tous les jours. » Dès l'entrée, Gray fut conquis par l'élégance de la décoration. Le salon était devenu un cabinet de travail autour duquel couraient, sur 3 rangées superposées, depuis les plaintes, les reliures précieuses d'un 1000 de volumes. Au milieu de la pièce, une large table bureau supportait, rangée en bon ordre, tous les objets nécessaires pour écrire et deux grandes photographies sous verre dont l'une représentait une tête de vieillard aimable et distingué, tenant du Père Noël et de Tolstoï, l'autre le portrait d'une charmante jeune fille ou jeune femme d'une vingtaine d'années. Gray pensa que psychologiquement ce portrait de femme ne pouvait être celui de la victime et se hâta de gagner la salle de bain. Il ne laissa d'être immédiatement étonné de constater qu'un long voile de mousseline de soie très fine, d'un blanc immaculé et traînant presque sur le sol, tamisait la clarté de la fenêtre. « Joli, ce voile, et tout neuf, » dit-il. « Il ne doit pas y avoir longtemps qu'il est là. »« Oh, si, monsieur, il y a au moins 2 mois que j'ai donné l'autre au teinturier. Et je dois justement le reprendre pour y faire une petite réparation. Il est si net, si propre. »« Oh, c'est que c'est moi qui fais le ménage, » dit finement la concierge. L'inspecteur, après un petit sifflement d'admiration, se risqua à poser une question saugrenue. « Même le jour du départ de ce monsieur, c'est vous qui avez fait son ménage ?»« Mais oui, monsieur, je vous assure, c'était mardi, et comme tous les matins à 7h30, j'ai apporté son petit déjeuner à monsieur Arizzi, et j'ai préparé son bain. »« Oh, vous savez, pendant les vacances, il n'y a pas de locataire aux étages, alors j'ai tout mon temps. »« Si monsieur était ici, je pourrais m'occuper de lui comme si j'étais presque uniquement à son service. » Même si, en rentrant la nuit, monsieur voulait une tasse de thé ou de tisane avant de se coucher, comme j'en apporte une tous les soirs à monsieur Arizzi, ça ne me serait pas difficile de le faire. Vous n'avez tout de même pas apporté une tasse de tisane lundi à monsieur Arizzi, à l'heure où il était sans doute rentré. Mais si, monsieur, répondit-elle aussitôt, un peu vexée. Il est rentré vers 10h, et 2 minutes après, je lui ai apporté son tilleul. Devant cette déclaration, Gray comprit qu'il était inutile d'aller plus avant. La fausse route était évidente. Gray, pour sortir, devait traverser de nouveau le salon. Avisant le portrait du vieillard sur le bureau, « Belle tête !» dit-il machinalement. « C'est M. Arizzi lui-même, monsieur, et de l'autre côté, c'est sa fille, Madame de Rieux. Elle est venue justement hier pour rapporter des livres à son papa. Qu'est-ce qu'il fait donc, M. Arizzi ?»« Il est ministre plénipotentiaire, monsieur. En ce moment, il est à Genève pour la conférence. » Après avoir remercié le concierge et l'avoir assuré qu'il réfléchirait, il gagnait déjà la porte de sortie lorsqu'une pensée l'arrêta au bout de quelques pas. La concierge était encore à l'entrée de sa loge. Gray revint en arrière. « Je vais tout de même visiter l'autre rez-de-chaussée, » déclara-t-il. « Comme vous voudrez, monsieur. Madame Stourman est là. Vous n'avez qu'à sonner. » Gray marqua une hésitation. « Est-ce qu'elle habite seule ?»« Oui. Qui est-ce qui voudrait vivre avec une bonne femme comme ça ?» Devant l'étonnement et l'intérêt à peine joué dont Gray avait accueilli cette question, elle vida son cœur, d'une voix acidulée et volubile. Ah, voilà une que je ne regretterai pas. Je n'ai jamais connu personne aussi peu agréable et sympathique. Il n'y a qu'un an qu'elle est là, heureusement. Vous savez, elle s'occupe de soins de beauté. Oui, de quelque chose d'approchant. Elle refait les nez, les oreilles, les joues, tout ce qui est vilain. Elle recoule les rides. Enfin, des trucs comme ça, est-ce que je sais. Dans son pays, il paraît qu'elle est médecin chirurgien. Du moins, c'est ce qu'elle a raconté à la gérance en entrant. Tout ça, c'est des charlatans. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle n'a pas 3 clientes depuis qu'elle est là. Et encore, c'était au début. Vraiment? Oh, sûrement. Ce qu'elle reçoit en revanche depuis quelque temps, ce sont des lettres. Sûrement des lettres de créanciers. Elle doit à Dieu et à diable. Ici, elle devait 3 termes sur 4. Ah, s'intéressa vivement Gray. Et alors? Oh, alors je ne sais pas comment elle a fait hier. Elle m'a fait dire par la femme de ménage, qui vient seulement le mercredi et le samedi chez elle, que j'ai demandé tout de suite à la gérance une quittance complète des termes et des frais d'huissier, et qu'elle réglerait tout ce matin. Et M. Blondel, c'est le caissier de la gérance, est venu de bonne heure aujourd'hui et elle a tout payé. Ça faisait plus de 7 000 francs. Je ne sais pas où elle les a pris. M. Blondel dit en riant qu'elle a dû faire un héritage. Moi, j'ai idée que c'est de l'argent qu'elle a dû gagner au jeu, dans un casino. Elle est revenue de vacances le même jour que M. Arizzi, c'était samedi matin. Où était-elle donc ? À Juan-les-Pins, je crois. C'est là, en tout cas, que la femme de ménage m'avait dit de faire suivre la correspondance. Poste restante, Juan-les-Pins. Devant ce fleuve d'un renseignement, dont la rancune précipitait tant le flot, c'est à peine si maintenant Gray osait respirer. Ici, tout concordait merveilleusement avec les déductions de Gray et expliquait la raison de l'intérêt que Mme Stourman portait aux gens qui flânaient devant ses fenêtres. Ainsi donc, le meurtrier serait une femme. La jeunesse et la force que l'inspecteur avait supposé que le meurtrier dut avoir étaient compensées par le fait que, d'après ses dires mêmes, cette dame Stourman était plus ou moins un chirurgien professionnel. Maintenant, Gray hésitait à entrer chez elle. Elle allait sûrement le reconnaître prendre les deux hommes qu'elle avait quelques instants auparavant suivis des yeux le long du quai. Cependant, la concierge, mettant l'hésitation de Gray sur le compte d'une ridicule timidité et très heureuse du dérangement qu'elle occasionnait à sa locataire, allait rapidement à la porte de Madame Stourman. Elle avait déjà appuyé sur le bouton de la sonnette avant que l'inspecteur eût pu l'en empêcher. Chapitre 6e, seconde visite. La porte s'ouvrit et Madame Stourman se montra. Un regard froid, interrogateur, tomba sur la concierge. « C'est pour visiter, » dit sèchement celle-ci. Lentement, les yeux de Madame Stourman se portèrent sur Gray. Rien sur son visage ne décela qu'elle l'eût reconnu. Elle consentit d'un hochement de tête muet. Gray s'avança, murmura rapidement une phrase d'excuse et, sur les pas de la locataire, pénétra dans le rez-de-chaussée. Celui-ci tenait davantage de la clinique que d'un appartement particulier. Depuis l'entrée, et à l'exception de la chambre, les cloisons et les murs étaient recouverts d'une épaisse peinture vernie, dite lavable, de couleur bleue très claire. Le salon avait été, sans doute à l'entrée de la locataire, aménagé en salle d'attente. Quelques sièges modernes dansaient autour d'une table où des revues féminines, froissées et jaunies, s'éparpillaient. Un épais tapis gris et noir recouvrait toute la pièce. Une large carpette toute semblable ornait d'ailleurs en entier le plancher de la chambre à coucher. Les meubles à arêtes vives formaient un ensemble, imitation de loupes d'ambroine foncé, recouvertes de petits velours gris. Tout cela était déjà passé, fatigué, mal entretenu. Les bois essayaient en vain de cacher de longues fissures. Les vernis s'écaillaient lamentablement. Au mur donnant sur le fleuve, sur le panneau à droite de la fenêtre, de larges traces d'humidité avaient, seul sans doute, conservé au papier sa teinte primitive. Gray, suivi de Madame Stourman, indifférente et muette, parvint bientôt à la salle de bain. Le regard de Gray fouillait rapidement tous les coins. Les moindres interstices du carrelage, les bords de la fenêtre. Rien, aucune trace, aussi imperceptible fut-elle, ne retenait son attention. Comme Gray se retournait, il aperçut Madame Stourman qui semblait suivre avec une curiosité lasse tous ses mouvements. « Pourrais-je voir la cuisine ?» demanda Gray. Madame Stourman parut étonnée de ce désir, mais aussitôt elle consentit et le conduisit. La cuisine était devenue un cube, au sol et aux parois carrelées. Les meubles, en fer, ripollinés de blanc, formaient son aménagement succinct. Un fauteuil, une chaise, une table, dans un angle un petit fourneau électrique. Dans un autre coin, une petite vitrine de verre sur quatre pieds de nickel laissait apercevoir sur une de ses tablettes quelques instruments d'acier. Des pinces, des boîtes à pansements. Sa tablette inférieure soutenait des produits de beauté, lait, crème, poudre et quelques flacons pharmaceutiques. Une légère odeur de formol planait malgré la fenêtre ouverte. De nouveau, Gray multipliait ses rapides investigations. Il s'approcha de la fenêtre comme pour admirer la vue qu'offraient les rives de la Seine. À la vérité, il cherchait une tache suspecte, révélatrice. Comme il ne trouvait rien, l'ombre d'un doute l'effleura sur la culpabilité de cette femme. Il résolut de ne pas insister pour l'instant, et après quelques considérations sur l'appartement, il remercia, prit congé et sortit. Chapitre 7e, première déduction. Sur le trottoir de l'avenue, Poussin traduisait l'énervement de son attente en battant une petite mesure frétillante de la pointe de son parapluie. Gray alla à lui et lui dit rapidement « Courez reprendre votre faction tout de suite. Je vais téléphoner pour qu'on nous envoie deux hommes pour la faire surveiller. La maison ? Non, la femme. Quelle femme ? La meurtrière. Quelle meurtrière ? Je vous expliquerai. Ne perdez pas de temps. Maintenant, elle doit se méfier. Elle est très capable de nous filer entre les doigts de l'autre côté. » Tandis que l'inspecteur principal, pestant contre l'éternelle chance de son collègue, retournait au petit trot à son poste, Gray était revenu vers la loge de la concierge et y était rentré. « Avez-vous le téléphone ? » avait-il demandé. « Oui, monsieur, celui de l'immeuble. » D'un geste de la tête, elle désignait l'appareil. « Bien, merci, je dois téléphoner. Vous n'avez qu'à écouter et vous comprendrez. Pendant ce temps, surveillez le vestibule et si cette Stourman sortait, prévenez-moi aussitôt. » La concierge, éberluée du changement d'attitude de ce candidat locataire, mais impressionnée par son autorité, se plaça devant la porte de la loge. Déjà, Gray avait obtenu la communication demandée. Il priait qu'on lui envoyât d'urgence deux inspecteurs. Il donnait l'adresse avenue de Versailles et raccrochait le récepteur. « Qu'est-ce qu'elle a fait ?» questionnait la concierge, moins étonnée d'avoir affaire à un policier que satisfaite des ennuis qui semblaient menacer sa locataire. « Je ne sais pas encore, » répondit Gray évasivement, « mais en attendant, veuillez répondre à mes questions. Lundi, Mme Stourman est-elle sortie ?»«
Oui, vers 2 heures. »
« À quelle heure est-elle rentrée ?»
« Au moins 1 heure après, Monsieur Arizzi, vers 11 heures, 11h30. »
« N'avez-vous fait aucune remarque au moment de cette rentrée ?» La concierge aurait bien voulu trouver quelque chose à dire, mais elle fut obligée d'avouer qu'elle n'avait rien remarqué de spécial. Gray poursuivit.
« Le mardi matin, la femme de ménage n'est pas venue, n'est-ce pas ?»«
Non, elle n'est venue que le mercredi, et encore, Mme Stourman l'a renvoyée presque immédiatement aux provisions. »«
À quelle heure Mme Stourman est-elle sortie le mardi ?»«
Elle ?»« Mais elle n'est pas sortie depuis qu'elle est rentrée lundi, dans la soirée. »«
Vous en êtes sûr ?»
Je le jure. Mercredi, la femme de ménage, en revenant des provisions, est de nouveau restée 2 ou 3 minutes dans le rez-de-chaussée. En sortant, elle m'a fait la commission relative au règlement que Mme Stourman voulait faire à la gérance. C'est tout.
C'est bien, je vous remercie.
Inutile de vous recommander la plus grande discrétion.
Oh, vous pouvez être tranquille.
Gray sortit immédiatement. Il avait hâte d'être seul. Dès qu'il fut sur le trottoir de l'avenue, il avisa presque en face un modeste débit de vin, d'où il pourrait fort bien surveiller la sortie de l'immeuble qu'il venait de quitter et guetter l'arrivée des collègues attendus. Il s'installa à l'intérieur, à une table utilement choisie, devant un verre de bière, et ne tarda pas à tomber dans ses profondes réflexions qui, selon Poussin, formaient entre Sherlock Holmes et Gray l'unique point d'analogie. Il convenait préjudiciellement d'imaginer de savoir qui était probablement la victime. Était-ce une compatriote de Mme Stourman, voire une parente, ou seulement une amie, ancienne ou occasionnelle? Étant donné les révélations reçues sur la situation économique jusqu'à ces jours derniers, difficiles de Mme Stourman, il n'était pas à penser qu'elle eût les moyens de s'offrir sans l'aide de personne d'onéreuses vacances à Jean Lépin. Quelques personnes compatissantes et riches avaient certainement subvenu aux frais du voyage et du séjour. Il était bien possible que ce fût elle qui eût payé de sa vie son geste généreux. Gray projeta de téléphoner dès qu'il le pourrait au commissariat spécial de Jean Lépin pour savoir avec qui Mme Stourman y était arrivée et y avait séjourné. D'autre part, le paiement inattendu de plus de 7 000 francs laissait présumer qu'une somme d'argent assez importante touchée par la victime était le but du crime. Gray se promit de demander dès le lendemain matin aux établissements de crédit, en commençant par les succursales des banques orientales, si une de leurs jeunes clientes n'avait pas retiré, le lundi précédent, à leur guichet, une somme probablement assez importante. Cette enquête lui serait d'ailleurs peut-être facilitée par l'indication à Jean Lépin du nom de la compagne de Mme Stourman. Simultanément, il alerterait de ce soir la brigade dite dégarnie pour que fût recherchée dans les principaux hôtels de Paris une voyageuse en état d'absence depuis le lundi précédent. Mais ne se pourrait-il pas que la victime, elle, ne fût revenue du midi que le lundi seulement? Dans ce cas, la sortie de Mme Stourman, dans l'après-midi du lundi, n'avait pas pour but un rendez-vous avec sa future victime, et on était amené à justement supposer qu'elle avait dû alors attendre son amie à la gare de Lyon à l'arrivée tardive de quelques rapides en provenance de la Riviera. Bien entendu, dans cette éventualité, Mme Stourman avait dû se garder de laisser l'arrivante s'embarrasser de bagages importants dont le débarquement, avenue de Versailles, n'aurait pu passer inaperçu de la concierge. L'excuse était facile. Il était trop tard pour courir les hôtels et risquer de ne pas y trouver de place. La voyageuse passerait la nuit chez Mme Stourman. On chercherait tranquillement un gîte le lendemain et l'on enverrait quelques bagagistes de l'hôtel choisi retirer les malles de la consigne. Une enquête s'imposait à la consigne de la gare de Lyon. Gray en était à la récapitulation des démarches qu'il convenait de faire immédiatement quand il aperçut, descendant de voiture, les collègues qui l'attendaient. Quelques instants après, Poussin et lui regagnaient rapidement le quai des Orfèvres. Chapitre 8e. La victime. Le lendemain matin, à 11 h, Gray et Poussin étaient tous deux dans le cabinet de M. Bordier. Gray parlait. Elle s'appelle Stefana Kocheko, veuve d'un industriel bulgare. Elle avait 26 ans. Elle est arrivée à Jean Lépin le 23 juillet, venant de Paris accompagnée de la dame Stourman,
qu'elle semblait considérer comme une dame de compagnie, bien qu'il ressortît de leur déclaration qu'elles étaient parentes éloignées. Durant son séjour à Juan-les-Pins, la jeune et, paraît-il, jolie Madame Kotcheko s'était prise d'un jeune Égyptien, et c'est en sa compagnie que les deux femmes ont quitté Juan-les-Pins le 22 août après un mois de séjour. Elle devait laisser le Sigisbé à Marseille, d'où il repartait dans son pays. Les messageries maritimes ont confirmé son embarquement dimanche dernier. Tandis que Mme Kotcheko restait jusqu'à la dernière minute à Marseille avec le jeune homme, Mme Stourman a poursuivi son voyage et est arrivée à Paris samedi matin. Sa jeune parente n'est revenue, elle, que lundi dans la matinée. Les recherches diligentes de M. l'inspecteur principal, en collaboration avec des inspecteurs de la brigade des Garnis, ont mis moins de 2 heures pour retrouver l'hôtel où Mme Kotcheko était descendue. Comme Gray prenait un temps, Poussin profita pour lancer un regard furtif sur M. Bordier. Avait-il bien entendu ce qu'avait dit Gray? Les recherches diligentes de M. l'inspecteur principal. C'était lui, l'inspecteur principal, lui, Poussin. Et les recherches diligentes, c'étaient les siennes. Mais allez donc attendre un signe de repentir d'un chef qui persévère dans l'aveuglement et l'iniquité. Gray reprit. Il faut croire que Mme Kotcheko et Stourman avaient pris dès Marseille un rendez-vous fixe pour la journée du lundi, puisque nous les retrouvons ce jour-là, à 3h15 environ, à la banque industrielle des Balkans. Mme Kotcheko y touchait des fonds provenant de Bulgarie. Important ? Demandait Bordier. 110 000 francs, en billets de 1 000. Monsieur Bordier hocha la tête. Je ne comprends pas que cette femme Stourman ait eu l'imprudence de se montrer à la banque, dit-il. Madame Stourman voulait être bien sûre que sa cousine touchait cet argent, et entendait, en quelque sorte, ne plus la quitter de l'œil jusqu'au moment où elle fera le nécessaire pour s'en emparer. Je n'ai pas eu, bien entendu, le temps de savoir ce que les deux personnes ont fait en sortant de la banque, et j'ignore aussi par quels moyens Madame Stourman a amené Madame Kotcheko jusque chez elle. Cependant, Mme Kotcheko avait demandé à l'hôtel des renseignements sur les prochains départs de bateaux pour l'Égypte. Son amoureux lui tenait à cœur. Apprenant qu'il y avait un courrier aujourd'hui même, elle avait manifesté à l'hôtel l'intention de retenir 2 places dès mardi matin. Une des places pour Mme Stourman? Oui. Et aussi banal que cela puisse sembler, la victime n'a peut-être accompagné Mme Stourman chez elle que pour parler longuement de son bien-aimé, avec la seule personne qui sans doute le connut. Monsieur Bordier se leva et conclut. Maintenant, il n'y a plus qu'à essayer de faire avouer la meurtrière. Avec cette femme telle que vous me l'avez dépeinte, je crains que la tâche ne soit difficile. Les 2 inspecteurs se retirèrent et retrouvèrent à la porte de la préfecture la voiture personnelle de Grailly. Poussin saisissa avec une majesté sereine. Chapitre 9e. Poussin à l'œuvre. Avenue de Versailles, les 2 policiers entrèrent ensemble dans l'immeuble. La concierge les regarda passer dans le vestibule et fit un petit signe d'intelligence à Gray. Ils sonnèrent chez Mme Stourman. Au bout d'un instant assez long, elle se décida à venir ouvrir. En voyant les 2 hommes, elle eut un imperceptible recul. « Pourriez-vous, madame, nous accorder quelques instants d'entretien ?» dit Gray avec douceur. « C'est que... » commença-t-elle. Poussin coupa les ponts. « Police !» murmura-t-il en montrant une carte et en entrant sans plus attendre, obligeant ainsi la dame à reculer. Sans un mot, elle se dirigea vers le salon salle d'attente, marchant en avant des inspecteurs. Arrivée dans cette pièce, elle se retourna, les regarda tous 2 avec un froid étonnement et n'eut un léger sourire que pour demander « Qu'y a-t-il, messieurs ?»« Allez, ça va !» entama immédiatement Poussin. « Pas d'histoire, pas de chichi. Raconte-nous un peu comment tu étais la femme Kotcheko. Allez vite, à table !» La plus douloureuse stupéfaction se peignit sur le visage de Mme Stourman. « Stéphana est morte ? » balbutia-t-elle. « Comme si tu ne le savais pas !» ironisa Poussin, tout de même légèrement estomaqué par l'attitude stupéfaite de la femme. Il ajouta sur le même ton moqueur « Madame ne lit peut-être pas les journaux ?»« En effet, monsieur, je ne suis pas sorti de chez moi depuis 2 ou 3 jours et je n'ai lu aucun journal. »« Mais comment Stéphana a-t-elle été tuée ?» C'est justement ce qu'on est venu te demander. À moi, mais pourquoi à moi? Allons donc, nous savons tout, tu entends tout. À quoi bon perdre du temps? Raconte-moi un peu ce que tu as fait lundi dernier. Lundi dernier, murmura-t-elle, semblant chercher. Mais immédiatement, les souvenirs semblaient revenir. Je suis sorti de chez moi vers 2 heures. Stéphana était revenue le matin même de Marseille et je devais aller la prendre à son hôtel pour l'accompagner à sa banque où elle avait à toucher 100 000 francs.
110 000, précisa Poussin.
C'est possible, consentit Madame Stourman avec indifférence. Elle n'était revenue à Paris que pour cette opération. Elle devait repartir en Égypte bientôt. C'est pourquoi d'ailleurs elle a gardé cet argent liquide en vue des paiements et des frais qu'elle allait avoir à faire immédiatement.
Et après ?
Dit Poussin, de plus en plus surpris par la franchise inattendue de Madame Stourman.
Après ?
J'ai accompagné Stéphana chez son couturier, avenue Matignon. Nous y sommes restés jusqu'à 6h15. En sortant, nous avons pris un verre de Porto aux Champs-Élysées, puis nous sommes allés dîner ensemble au Café de la Paix.
Oui ?
Et Madame Kotchenko, pendant ce temps, trimballait toujours les 110 000 francs dans son sac, n'est-ce pas ?
Oh ! Qu'est-ce que c'était qu'une pareille somme pour ma cousine ? Elle est si riche.
Enfin, je veux dire, elle était si riche.
Et après le dîner ?
Insista Poussin.
Je l'ai quittée à 10h30 environ, place de l'Opéra,
répondit aussitôt Madame Stourman.
Elle est montée dans un taxi pour rentrer à son hôtel, en me donnant rendez-vous seulement pour aujourd'hui à 4h. Elle avait de nombreux fournisseurs à voir. Et nous devions retenir cet après-midi seulement des places sur le bateau de lundi pour Alexandrie. Elle avait dû retarder notre nouveau départ de 4 ou 5 jours. Elle le regrettait assez.
« Bien, bien, ma belle, » admit assez grossièrement Poussin, préparant un coup droit. Il le porta sans retard.
« Et d'où vient l'argent qui t'a servi à payer hier tes loyers en retard ? Nous avons les numéros des billets de 1000 reçus par Madame Kotchenko à la banque, alors tu comprends ?»«
Ma cousine, » connaissant mes difficultés, m'a avancé 10 000 francs pour que je puisse payer quelques dettes et procéder à certains achats nécessités par mon départ avec elle. Il me reste environ 1 200 francs.
Diable, pensa Poussin, la maugresse avait réponse à tout.
D'un regard bovin, il lança vers Gray un SOS désespéré.
Malheureusement, son collègue semblait porter surtout intérêt aux gravures apocalyptiques de la chambre même sur la porte de laquelle il s'appuyait.
Ce fut Madame Stourman qui tira Poussin du silence gênant dont il ne trouvait déjà plus le moyen de sortir.
« Mais comment sait-on ? » demanda la dame. « Que mon ami a été tué ?»«
Parce qu'on a retrouvé son corps et dans un bel état. »
Madame Stourman poussa un petit cri d'horreur, puis aussitôt elle parut reprendre du poil de la bête et s'indigner. « Qu'est-ce qui a pu faire croire que j'étais mêlé à sa disparition ?»
La question eut le don de faire volte-face à Gray.
« Pourquoi parlez-vous de disparition ?»
Mon collègue n'a pas ouvert la bouche sur ce sujet. Il vous a simplement dit que Madame Kotchenko avait été tuée.
Pas autre chose,
opina sévèrement Poussin. Gray reprit aussitôt. Quelle robe portait votre amie quand vous l'avez quittée ? Elle haussa les épaules et répondit immédiatement. Une robe noire, très simple.
Vous êtes sûr ?
Sembla très vivement s'étonner Gray au non moins vif étonnement de Poussin.
Absolument, assura-t-elle.
Ah, par exemple. Pourtant, la victime portait une robe grise à minuscules carreaux.
« Qu'est-ce que vous dites ?»
murmura Madame Stourman, absolument stupéfiée. Elle expliqua sans tarder l'espoir inattendu que son visage décelait aussitôt après.
« Mais ce n'est peut-être pas son corps que vous avez retrouvé. Stéphana n'est peut-être pas morte. »«
Oh ! » !»« Une telle ressemblance !» objecta lentement et pensivement Gray.
De nouveau, la femme fixa Gray, cette fois elle semblait emplie d'une immense joie.
Ressemblance ? Ne put-elle s'empêcher de demander.
Tout le personnel de l'hôtel l'a reconnue.
À ses vêtements ou à ses traits ? Questionna-t-elle en bégayant un peu, bien qu'elle s'efforçât visiblement de poser la question comme une incidente sans valeur.
À ses traits, parbleu ! Pourquoi l'aurait-il reconnue uniquement à ses vêtements ?
Oui, pourquoi ? Intervint Poussin, qui venait seulement de comprendre le jeu de son collègue.
Madame Stourman répondit vivement. « Mais je ne sais pas. Est-ce que je sais ? Je ne sais rien. Je ne sais même pas ni où ni comment la femme dont vous parlez a été tuée, et cette différence de robe me fait espérer qu'il y a erreur. Je le connais, Stéphana, vous savez, elle est capable de bien des fugues. »
« Oh, pas en ce moment. N'est-elle pas très amoureuse de son ami égyptien ?»«
Oui, c'est vrai, mais tout de même, elle est si bizarre, je vous assure. Cette différence de robe ? Une robe grise, dites-vous. Elle n'avait pas de robe de cette teinte. « J'en suis certaine. Emmenez-moi voir la femme qu'on a prise pour elle. Du premier regard sur ses traits, je vous dirai si c'est Stéphana ou non. »«
C'est une bonne idée, » approuva doucement Gray. Mais au lieu d'obéir sans tarder à la suggestion qu'il venait d'approuver, Gray, tranquillement et pensif,
regagna la porte de la chambre à coucher, entra un peu dans la pièce, porta quelques secondes les yeux vers la fenêtre, puis revint presque souriant. Ce qu'il dit alors parut à Poussin stupide et hors de propos. « J'aime beaucoup, madame, le papier de votre chambre à coucher. S'il vous en restait un rouleau, je vous demanderai de me le confier. Cela me servirait d'échantillon. »
« Je n'ai jamais eu de rouleau de ce papier. Le peintre n'en a pas laissé. »«
Tiens, c'est ennuyeux, dit Gray, même pour vous, car je crains que vous n'ayez à changer bien tous les deux les qui sont à la droite de la fenêtre. Il y a des traces d'humidité, je crois. Je n'en comprends d'ailleurs pas la raison. Le mur est au midi, en outre le côté gauche de la fenêtre, qui fait pendant à l'autre, est absolument sec.
Oui, il y a une fuite d'eau, l'année dernière, à l'étage au-dessus.
Ah, voilà,
dit Gray d'un air bête, acceptant l'explication. Je me disais aussi, tout le papier de la pièce est fané, jauni.
Ces pièces au soleil sont terribles pour les papiers. Et là, seulement, à gauche de la fenêtre, il a l'air tout autre.
Oh, c'est imperceptible, mais vous savez, l'habitude de tout remarquer.
Ça ne peut être que l'humidité qui lui a conservé ou redonné ce teint frais, cette apparence quasi neuve.
Poussin s'énervait. Cette banale histoire de papier mural allait-elle durer longtemps?
Ce qu'il vaudrait mieux, voyez-vous, insista Gray, c'est arracher le papier. Laissez sécher le mur et en recoller d'autres à votre retour de voyage.
À quoi bon? Dit Madame Stourman.
Je dois déménager dans 2 mois. Je crois que nous devrions surtout nous occuper en ce moment d'aller reconnaître d'urgence la malheureuse femme que l'on a prise pour ma cousine et en terminer avec cette sinistre épreuve.
Certainement.
Mais je voulais vous dire à propos de ce papier.
Poussin regarda Gray et tout à coup il crut comprendre. Gray pensait sûrement qu'on avait dû sur le papier effacer avec de l'eau des traces de sang révélatrices. De là venait l'humidité qu'il avait remarquée. À l'interrogation muette de Poussin, Gray répondit
« Mon cher Poussin,
quand on a un fleuve à quelques pas du rez-de-chaussée qu'on habite,
on peut se débarrasser presque facilement d'un corps de femme et également de la tête. On peut aussi effacer des traces de sang, aussi nombreuses et importantes soient-elles quand on a à sa disposition une pièce qui se prête par destination à des nettoyages de ce genre. Mais ce qui est moins facile, aussi bizarre que cela paraisse, n'est-ce pas, Madame Stourman, c'est de cacher le produit de l'assassinat.
100 billets de 1 000 francs. Les banques peuvent être surveillées, les numéros des billets repérés, danger. L'abri le plus sûr, c'est encore chez soi.
Évidemment, le hasard extraordinaire peut y amener la police.
Il faut donc avoir le génie de trouver un endroit que les plus habiles perquisitions ne puissent découvrir. Plancher, carrelage, fauteuil, boiserie, literie, manteau de cheminée, double fond de malle ou de valise, tout cela, les films et les romans policiers l'ont appris, sont les premières cachettes possibles sur lesquelles se précipitent les enquêteurs.
Madame Stourman a trouvé mieux. Et si nous étions arrivés 2 ou 3 jours plus tôt, nous n'aurions jamais retrouvé les 100 000 francs qui sont la preuve de sa culpabilité.
Madame Stourman lança un regard de haine sur Gray, mais se tut. L'inspecteur poursuivit.
Je comprends qu'elle soit restée 3 jours chez elle. L'opération a dû être délicate et je suppose que mercredi, elle n'a pas dû laisser entrer sa femme de ménage dans sa chambre.
Pensez donc. Réunir 100 billets de 1 000 francs les uns aux autres, sans doute par du papier collant ou des bordures de timbre, en faire une nappe, l'appliquer sur un panneau du mur, retenir cette nappe dans le haut probablement par le même procédé, puis mettre sur le tout un premier papier mural collé seulement en haut et en bas et non sur les billets, et un second que l'on colle cette fois sur toute la surface du premier. En séchant, le papier se tire et toutes les boursouflures et toute humidité disparaissent avec le temps. N'est-ce pas quelque chose comme cela, Madame Stourman ?
Poussin s'était déjà élancé dans la chambre. Faites attention de ne pas déchirer les billets,
conseilla Gray. Quand il fut seul avec Madame Stourman, il s'assit sans la quitter des yeux, puis il demanda : Comment avez-vous pu l'attirer chez vous ? Elle releva la tête, regarda Gray, eut un sourire amer et se décida, vaincue. On aurait pu l'emmener au bout du monde à condition de ne pas cesser de l'écouter parler de son Égyptien bien-aimé.
« Et la tête ?»
Madame Stourman pâlit horriblement, mais pourtant elle balbutia.
Après le corps, dans l'eau, plus loin, les instruments dans le sac, tout.
Poussin reparut, triomphant.
« J'ai retrouvé les billets, »
dit-il, et il s'approcha de Madame Stourman. On entendit le bruit d'un déclic. Quelques instants après,
les deux inspecteurs et leur prisonnière se rendant à la police judiciaire passaient devant le palais. De nouveau, le regard de Poussin se leva vers l'horloge centrale. 14h-12. Sans vraiment trop savoir pourquoi, il calcula qu'il y avait juste 24 heures qu'il avait quitté le palais pour les mettre Gray au courant de l'énigme du point du jour. Ainsi s'achève Gray devant l'énigme par Alfred Gragnon.